Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode hors série avec Tristan Nitto. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Et pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Christophe Renard.
Bonjour.
Jean-Philippe Gaulier.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Ulloa. Alors Tristan, en préambule, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Eh bien donc je m'appelle Tristan Nitto, je viens de fêter mes 50 ans, j'ai une formation technique, je suis tombé dans l'informatique quand j'étais tout petit, parce que ça me passionnait, j'en ai fait mon métier, j'ai découvert l'internet avant le web au début des années 80, et puis je suis rentré chez Netscape en 1997, ensuite je suis passé au projet Mozilla, j'ai monté ensuite Mozilla Europe dont j'ai été le président, et il y a à peu près 2 ans j'ai quitté Mozilla pour rejoindre une start-up française qui fait du cloud personnel qui s'appelle Cozy Cloud.
Alors tu viens de publier un livre qui s'appelle Surveillance 2.//. Alors c'est quoi ? C'est un nouveau protocole ?
C'est un clin d'œil à ce nouveau protocole qui n'existe pas et qui pourrait exister, qui est un peu le mode d'utilisation de l'internet aujourd'hui que je regrette. C'est donc un livre sur le fonctionnement de l'internet, un peu d'un point de vue économique, mais aussi des données personnelles et les problèmes que ça peut poser sur la société, et puis aussi les solutions qu'on peut apporter à ce problème.
Alors justement, quelles sont les problématiques ? Est-ce que tu peux les développer un petit peu ?
Ben aujourd'hui, on utilise tous ou presque 3 ordinateurs. Le premier, c'est un ordinateur personnel, et ça, on sait que c'est un ordinateur, on l'a sous les yeux la plupart du temps. On a un deuxième ordinateur qui est le smartphone. Alors, il ressemble moins à un ordinateur, mais le fait est, c'est que c'est un ordinateur. Et le troisième ordinateur, il est bien pratique pour connecter les deux premiers ensemble, et on l'appelle le cloud, parce que comme ça, c'est un peu nébuleux. Et le cloud, en fait, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre dans la plupart des cas. Souvent, l'esprit humain étant ce qu'il est, cet ordinateur, on l'utilise gratuitement. On lui donne une impression de gratuité. Quand on utilise Gmail, on utilise l'ordinateur de quelqu'un d'autre, celui de Google, et puis il nous coûte rien. Quand on va sur Facebook, avant de se loguer, il vous dit fièrement « Facebook est gratuit, il le restera toujours ». Et ça, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et cet ordinateur de quelqu'un d'autre, il n'est pas gratuit. On l'échange, on utilise ses services en échange de nos données personnelles. Ce qui pose des problèmes, parce que cette centralisation des données personnelles dans les mains de quelques très grands acteurs, elle permet la surveillance de masse.
Oui, c'est le principe universel. Si c'est gratuit, c'est vous le produit.
Alors à mon avis, j'aime beaucoup la phrase, c'est un beau slogan, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que quand j'utilise Wikipédia, qui est gratuit, je ne suis pas le produit de Wikipédia. Quand j'utilise Firefox ou Thunderbird, qui sont des logiciels libres, ou Linux, je ne suis pas le produit. Mais quand j'utilise Facebook, quand j'utilise n'importe quel service de Google, je suis indéniablement le produit.
Alors quand j'utilise une entreprise commerciale.
Voilà, c'est la différence entre des fondations et des entreprises commerciales.
Oui, plus précisément, il y a aussi une différence de nature, c'est-à-dire qu'un logiciel libre est peut-être gratuit, alors qu'un service commercial apparemment gratuit ne l'est pas. Donc, s'il fallait vraiment avoir une phrase, un slogan forcément un peu moins catchy, ça serait si le service commercial est gratuit, alors c'est toi le produit.
Alors, Tristan, est-il si grave de perdre le contrôle de son ordinateur et de son smartphone ?
Je pense que c'est pas absolument dramatique si on sait ce qu'on fait. Finalement, le problème, c'est l'accumulation de « on ne sait pas ce qu'on fait parce qu'on ne nous l'a jamais appris », et donc on ne sait pas ce qui se passe derrière. Aujourd'hui, quand vous utilisez un smartphone et que vous installez l'application Facebook dessus, il vous dit « j'ai besoin d'accéder à vos contacts, à votre identité, à votre position GPS, à votre appareil photo, à vos fichiers, à vos données, à vos vidéos, à vos photos, etc. Et puis aussi avec votre carnet d'adresses pendant qu'on y est. Et le fait est, on le sait, Facebook récupère votre carnet d'adresses et l'upload sur ses serveurs pour faire pour compléter son graphe social, c'est-à-dire une carte du monde des individus et de leurs relations. Ce qui fait que le jour où quelqu'un qui n'a pas encore un compte Facebook, je suis sûr que ça existe encore, eh bien quand cette personne arrive sur Facebook la première fois, comme il était présent dans des dizaines de carnets d'adresses déjà uploadés, on va lui dire ah mais vous connaissez Tristan Nitto, vous connaissez RGV Schauer, etc., parce que ceux-là ont accepté d'uploader leur carnet d'adresses. Et en fait, on ne le sait pas, il dit juste, j'ai besoin d'accéder à vos carnets d'adresses, et il prend ces données, il les récupère. De la même façon, avec Facebook, on a pu le remarquer, quand on demande à supprimer des photos et supprimer des fichiers de Facebook, il fait oui, ça y est, c'est supprimé. Mais en fait, ces fichiers sont toujours accessibles avec les anciennes URL. Donc en fait, il vous dit qu'il les a supprimés, mais il ne les a pas supprimés. Donc on a bien la perte de contrôle de nos données avec des gens qui nous disent qu'ils font des choses et qu'ils les font pas, ou qui nous disent pas qu'ils font des choses et puis ils les font quand même avec nos données personnelles. Donc on peut pas avoir confiance en fait dans des sociétés qui ont ce genre de pratiques. Alors c'est toujours énervant si vous voulez de travailler avec des gens comme ça en qui on peut pas avoir confiance, mais ça existe aussi dans la vraie vie. Il y a quelque chose de plus gênant derrière tout ça, et c'est quelque chose qu'on a appris depuis juin 2013 avec les révélations d'Edward Snowden, le lanceur d'alerte. Edward Snowden, en gros, il a sorti des documents de la NSA et des présentations PowerPoint qu'il a données à des journalistes et qui ont été analysées et puis certaines publiées. Et en gros, ça explique que la NSA et d'autres agences gouvernementales se sont fixées comme objectif de surveiller tout le monde tout le temps. Alors pas des individus en tant que tels, ils aimeraient bien surveiller les individus, mais ils peuvent pas faire. Alors ils surveillent leur communication téléphonique ou informatique. Et en fait, évidemment, c'est très compliqué de surveiller 7 milliards d'êtres humains, mais dès lors qu'une bonne partie de ces 7 milliards d'êtres humains mettent toutes leurs données dans les mains de quelques grands silos de données, Google, Facebook et autres services du même genre, eh bien, ça devient subitement beaucoup plus facile, et ça me rend même économiquement possible, la surveillance de masse. Alors on dit, bon, la surveillance de masse, mais j'ai rien à cacher, etc. Alors déjà, c'est pas vrai, on pourra en reparler, qu'on n'a rien à cacher, mais ensuite, c'est que quand on se sait surveiller, eh bien, on fait de l'autocensure. On pourra en reparler si vous voulez, mais c'est prouvé scientifiquement. Quand on se sait surveiller, on fait de l'autocensure. Et on est plus libre, en fait, plus libre d'exprimer des idées, des visions, des impressions, des sentiments, parce qu'on se sait surveiller. Et bref, de fil en aiguille, on est parti de « Ah, c'est super, j'ai Facebook gratuitement sur mon téléphone Android » à « Je suis dans une société de surveillance » qui est en fait, finalement, un peu une société policière. Quoi.
Justement, toi qui a des enfants et qui es connu sur Internet, ne serait-ce que par ton parcours professionnel, est-ce que c'est possible aujourd'hui de vivre sans Google, sans Facebook, ou alors est-ce que, bien que tu maîtrises et connaisses le sujet, tu as fait aussi le choix d'utiliser ces outils, ou est-ce que tu vis très bien sans ?
Non, après, je pense que moi, j'ai pas la solution miracle pour tout le monde, et je prétends pas qu'il faille se passer de ces outils. Je pense qu'il faut juste savoir comment ça fonctionne et savoir quel compromis on fait. Et faire le meilleur compromis qui est adapté à notre situation. Donc, pour ma part, j'essaye de pas utiliser Gmail, par exemple, parce que j'aime pas qu'on lise mon courrier. Vous savez, la vie privée, c'est pas un hasard si c'est dans la loi. Et le secret des correspondances aussi. Mais seulement, Gmail finance son service gratuit, qui est bon, hein, par ailleurs. Il finance ce service en lisant tous mes courriers, en analysant le contenu de ces courriers, le contenu des pièces jointes et les destinataires, et ainsi que les différents metrics dont les adresses de connexion pour émettre et recevoir ça. Comment ils financent Google Maps ? Pareil,
au moins il a le mérite, Google, de l'avoir jamais caché. contrairement à d'autres, hein, qui ont essayé de faire croire que les messages n'étaient pas écoutés. Donc au moins, Google a le mérite de l'avoir jamais caché. Ce qu'il faut, c'est expliquer aux gens, il peut aussi y avoir des possibilités. Moi, le problème que je vois, c'est le mélange. Les gens mélangent tout. Si on a une machine pour les usages à la maison des enfants ou une machine virtuelle pour les usages à la maison des enfants et une autre pour un autre usage, les gens pourraient maintenir une vie privée très nettement supérieure à celle qu'ils ont par défaut. Mais ça, c'est tout un enseignement qui est évidemment pas encore atteint par le commun des mortels.
Oui, oui,
là, t'as employé un terme barbare de machine virtuelle. Je pense que la majorité des gens savent pas ce que c'est une machine virtuelle et sont même pas capables de mettre en place une machine virtuelle pour un usage privé, un usage pro ou autre. En plus, toi, juste avant, Tristan, tu parlais de les gens se savent surveiller. Mais moi, j'ai l'impression que la majorité des gens ne le savent juste pas. On n'en a pas du tout conscience. Parce que récemment, il y a le film sur Snowden qui est sorti. Et j'ai pas mal de gens que je fréquente qui sont pas du tout dans le milieu de l'informatique et de la sécurité. Et la plupart des gens qui l'ont vu, là, donc déjà, étaient au courant de rien, ne savaient rien. Et surtout, la seule chose qu'ils m'en disent, c'est « Oh là là, la NSA, potentiellement, ils peuvent contrôler ma webcam. » Oui, et t'as pas conscience qu'il y a aussi un espionnage de masse. « Ah non, j'avais pas fait attention. » Et j'ai l'impression que les gens sont juste pas au courant ou alors s'en foutent totalement.
Bah, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, hein, et que ce livre, je l'ai voulu, je sais pas si c'est réussi, mais aussi didactique que possible. C'est-à-dire, justement, pour la plupart des utilisateurs du numérique aujourd'hui n'ont jamais été formés à ça, n'ont jamais eu l'idée de comprendre le business model du big data, de la collecte de données, de la prétendue gratuité, de la publicité ciblée, etc. Donc, bah, il fallait bien leur expliquer, puis aussi leur expliquer les risques qui vont avec. Hein. C'est pour ça que j'ai pris quelques mois de ma vie pour écrire ce livre, qui, je pense, vous a rien appris, à aucun de vous, parce que vous savez comment ça marche les ordinateurs. Moi aussi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, on sait bien que le cloud, c'est un ordinateur. On sait bien ce qui est possible de faire avec des données personnelles. N'empêche que quand on montre le Google Location History, qui est donc l'historique de déplacement des utilisateurs de Google Maps, les gens font « Ah ouais, quand même !» C'est assez flippant. Et c'est intéressant parce que c'est en fait une façon de Google de repousser les limites de l'inacceptable. Alors, ils nous surveillent dans nos déplacements GPS, bon, puis un jour, ils nous le montrent. « Ah, vous savez, vous pouvez le voir. » Et là, elles font « Ah, là, c'est dingue !» Fait, ah ouais, dis donc, en 2014, j'étais à la Martinique, c'était sympa, je me souviens et tout. Et après, ils acceptent, en fait. Et après, on repousse un peu plus loin les limites de la vie privée jusqu'à ce qu'elles n'existent plus.
Tu nous as cité des grands acteurs américains, Google, Facebook. Est-ce que pour toi c'est vrai pour tout service en ligne, hein, alors peut-être plus proche de nous, la poste.net, Caramail pour les plus anciens. Est-ce que pour toi cet espionnage, cette surveillance pardon, est massive et partout? Est-ce que par exemple les services français espionneraient potentiellement les Français, ou est-ce que c'est plus lié aux agences en trois lettres que tu as citées précédemment?
C'est un peu compliqué. Déjà, au niveau des acteurs économiques, c'est sûr que Facebook et Google sont passés maîtres dans ce genre de choses et sont bien meilleurs que la plupart des sociétés françaises. Heureusement, on a des champions comme Criteo en France qui sont très forts dans le domaine, puisque Criteo, c'est la société française qui fait du retargeting. Hein, c'est-à-dire que vous regardez quelque chose sur Fnac.com, un fer à repasser, ah, vous l'achetez pas. Et après, vous avez ce fer à repasser qui vous suit en permanence pendant des jours sur des sites qui n'ont rien à voir avec Fnac.com. Ça, c'est la magie de Criteo, enfin, ou du retargeting, mais donc Criteo est un des leaders. Mais à part Criteo, en France, on a assez peu de gens qui fliquent les citoyens. Alors qu'aux États-Unis, Google, Facebook sont vraiment les champions du genre. Donc, les Américains ont de l'avance sur nous, bien plus d'avance que Doctissimo ou Caramel, quoi.
T'as quand même un paquet de surveillance cachée, enfin qui ne se fait pas directement par des ordinateurs et donc que tu vois pas, Mais je pense par exemple à l'enregistrement de la position de tous les téléphones par les BTS ou tout ce qui est carte bancaire. À chaque fois que tu payes, tes données de carte bancaire sont... Enfin, toutes les banques, de manière générale, analysent ta consommation à partir de tes paiements.
Oui, oui, bien sûr.
Non, non, mais à la base, la géolocalisation de tous les téléphones, ça, c'est dans la licence. Hein. Donc déjà, c'est l'État qui l'impose à l'opérateur.
Aujourd'hui, après, tu peux acheter des services comme par exemple savoir quelle est la fréquentation d'un concert ou le nombre de gens qui sont venus
à
Marseille.
À l'origine, c'était prévu pour la géolocalisation de ta flotte de poids lourds, etc. Et c'est vrai que maintenant, ils ont effectivement détourné l'offre initiale telle qu'elle était prévue à des choses qui posent question.
Oui, alors c'est certain que... Déjà, avant même l'Internet, hein, ou plutôt le web mobile, le GSM, structurellement, par triangulation et parce qu'il est fait, il est ainsi fait, il faut bien que le mobile il se rapproche d'une antenne en disant « voilà, je suis là ». Donc on a toujours su, mais encore une fois, structurellement, c'est fait, c'est construit comme ça, le GSM, c'est-à-dire le téléphone mobile, c'est où on se déplace parce qu'il a besoin de savoir sur quel relais envoyer le signal. Ça c'est fait, ça existe, c'est ainsi. De même, dans les navigateurs, il y a des cookies pour pouvoir reconnaître quelqu'un d'une visite à l'autre ou bien d'une page à l'autre et que son caddie le suive. Maintenant, on en arrive quand même, il faut rester raisonnable et comparer ça à ce qui est fait aujourd'hui avec les téléphones Android. Là, c'est plus du repérage par antenne GSM, c'est le GPS qui est activé par Google Maps. C'est quand on fait une recherche Google, on lui communique ce qu'on a dans la tête à l'instant T. Ça, c'est archivé. Gmail, c'est toute la correspondance, Google Talk pareil, etc. Enfin, il y a une panoplie et il y a une concentration. C'est ça qui est très fort finalement, c'est qu'il y a une panoplie d'outils avec Android et avec les services web de Google qui font qu'on concentre énormément de données différentes qui peuvent être concentrées et qui sont utilisées pour faire du profilage à des fins publicitaires. Et ça, c'est à une échelle qui était encore pas atteinte jusqu'à présent.
Je suis quand même pas tout à fait d'accord sur. Enfin, je veux citer l'exemple de la voiture qui aujourd'hui enregistre absolument tous ses déplacements, mais en plus maintenant on part sur des voitures connectées où les constructeurs de voitures vont exploiter ces données. Il y a déjà des partenariats par exemple où les données des amortisseurs sont remontées aux sociétés d'autoroutes pour pouvoir repérer les endroits où il faut aller réparer les autoroutes parce qu'il y a des trous ou des nids de poules. Et à terme, il y a aussi, je ne sais pas si la loi est passée en France, je ne l'habite plus en France, mais il y avait l'histoire que la police pourrait accéder via la port OBD à toutes tes données localisation enregistré par ta voiture depuis que tu l'as acheté.
Non, mais ma voiture, elle ne sait pas où je suis. Hein. Elle sait que je fais des kilomètres, mais...
La voiture, elle a un GPS intégré aujourd'hui. C'est au mètre près.
Toutes les voitures récentes le savent. Hein.
Elles sont capables de dire, à tel endroit sur telle autoroute, il faut envoyer quelqu'un réparer parce que les amortisseurs ont repéré un problème de trou dans la route. Et la différence,
pas
c'est
la mienne,
que ça...
Hein, mais bon.
Non, mais oui. Tristan, moi aussi, c'était pas la mienne. Mais il y a un moment donné, quand tu dois changer de voiture, tu n'as plus du tout le choix.
Ouais.
Et tu es obligé d'avoir une voiture qui sait tout de toi.
Enfin, Tristan, il roule à moto.
Moi, j'ai des motos à carburateur, donc il n'y a pas d'électronique dedans. Hein,
Et la différence, c'est que dans ta voiture, tu n'as aucun choix. C'est-à-dire que tout ça se fait... je ne sais même pas si tu as signé quelque chose. J'imagine que c'est dans le contrat quelque part. Alors que quand même, on va dire que les gros opérateurs Internet sont très surveillés et soumis à tout un tas de réglementations. Et tu as quand même la possibilité d'aller effacer tes traces... Enfin, tu vois ce qui est collecté et tu peux l'effacer, quoi. Mais c'est une obligation légale.
Ce qui est vraiment nouveau, c'est la multiplication des capteurs. On a commencé avec l'ordiphone, qui a combiné non seulement les fuites d'informations GSM, mais tout un tas de déchets informationnels, de positions, de pratiques, etc. La voiture, les objets connectés qu'on met partout. Ce qui est vraiment explosif, c'est qu'on collecte de plus en plus d'informations sous toutes les formes. Elles sont rassemblées sur relativement peu d'acteurs, et de toute façon, elles sont commercialisées. Donc on peut les croiser, on peut les corréler, et on a un profiling extrêmement précis qui est promis, et de plus en plus précis avec des gens qui se baladent, avec des objets qui analysent leur santé, leur rythme cardiaque, leur activité physique.
Le dernier truc que j'ai découvert, c'est que les aspirateurs Roomba, par exemple, font la carto de ta maison et l'upload dans le cloud Amazon. Donc en fait, l'aspirateur, il se promène chez toi, il fait le plan, il sait où sont les prises électriques, il connaît la forme des murs et l'emplacement des fauteuils, etc. Mais sauf qu'il ne le garde pas en local, après il l'upload dans le cloud. Et du coup, si, enfin, je ne sais pas à quoi ça sert, mais si tu changes d'aspirateur après, du coup, il ne se connaît plus dans les objets parce qu'il connaît le plan de chez toi.
Mais ça, c'est général à tous les objets connectés. La totalité des objets connectés vont tous envoyer les données dans un cloud. Et là, tu tombes dans Amazon. Mais la majorité des objets connectés sont chinois. Ça va dans des clouds en Chine et personne s'en aperçoit.
Heureusement, il y a des chercheurs en sécurité qui font leur boulot et qui le signalent. je crois que le plus amusant dans cette histoire, en fait, c'est que c'est... vous savez, il y a cette réflexion. Alors évidemment, souvent, quand on parle de surveillance, on parle de 1984 de George Orwell. Et d'aucuns disent que George Orwell n'aurait jamais dû écrire ce qui finit par devenir un manuel d'instruction pour politiciens qui nous mettent sous surveillance. En fait, c'est pas seulement les politiciens, c'est que les citoyens eux-mêmes sont ravis de s'acheter des mouchards de poche, les ordiphones avec deux caméras, une devant, une derrière, plusieurs micros, un GPS et le tout connecté en permanence à l'internet. On les paye une fortune avec nos petits sous à nous, quoi. Donc c'est pas quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur, ou bien ça nous est suggéré et on se dit tiens, ouais, il me faut absolument un nouveau smartphone.
Oui. Oui, mais d'un autre côté, ça nous rend plus heureux. C'est-à-dire que c'est difficile à comprendre, à expliquer, mais les études sociologiques le montrent. Donc, on a gagné en confort de vie à cause de ces objets. Et les gens s'y sont habitués.
Mais oui, parce qu'en fait, il y a deux types de surveillance quand même. Il y a la surveillance étatique et il y a la surveillance commerciale. Et le but de la surveillance commerciale, c'est de faire de la publicité ciblée. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais... Moi, quitte à recevoir de la publicité, je préfère recevoir de la publicité qui me concerne, qui m'intéresse, plutôt que des choses qui tombent complètement à côté. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, c'est mieux sans publicité.
Ça, c'est peut-être la solution, c'est trouver un autre modèle économique qui permette de se passer de publicité ou de peut-être payer, pour, ou pas très cher, pour ne plus être surveillé, plus avoir de publicité.
Ça nous permet de alors on s'éloigne un tout petit peu du livre, mais ça va nous justement permettre que tu parles un petit peu de ce que tu fais à My Cozy Cloud ou à Cozy Cloud et expliquer en quoi justement il peut y avoir des modèles sans pub et puis revenir aussi peut-être sur le freemium et des choses comme ça.
Oui, alors effectivement je peux vous parler de Cozy Cloud, ce que je ferai avec plaisir. Il y a aussi un sujet qu'il faut aborder, c'est la notion de circus, les systèmes d'information redonnant le contrôle aux utilisateurs. Je suis désolé, je suis pas très bon en acronyme. Qui est en fait ma réponse à bon bah maintenant face à ces problèmes posés par ces services de cloud gratuits, qu'est-ce qu'on fait? Et dans le livre, la troisième partie, elle est destinée aux informaticiens, et donc je décris le concept de circus. Et la quatrième partie, elle est destinée à l'utilisateur lambda, où j'essaye d'expliquer des règles d'hygiène numérique simples pour commencer à se débarrasser de cette surveillance de masse. Donc là, pour revenir à Circus, donc si on devait inventer un système de cloud qui serait au service de l'utilisateur et qui ne serait pas chargé de le surveiller, j'ai déterminé sept principes différents pour le Circus. Et le premier, c'est de ne pas dépendre de la publicité ciblée. C'est-à-dire que fondamentalement, si on veut avoir quelque chose de gratuit, qui est donc d'apparence gratuite, qui repose sur la publicité ciblée, le verre est dans le fruit. On peut pas avoir un système qui est respectueux de la vie privée de l'utilisateur si c'est financé par de la publicité ciblée, à cause justement de ce système de profilage qui est inhérent à la publicité ciblée. Donc il va falloir apprendre à payer. Mais pas forcément beaucoup, hein, peut-être juste quelques euros par mois, et ça vaut pas plus. Faut quand même savoir que si on regarde la comptabilité de Facebook, je l'ai regardé sur la compta 2014, je crois. Eh bien, en 2014, Facebook, ça coûtait par personne et par an, ça coûtait 5 euros. C'est-à-dire qu'en fait, on donne toutes nos données à Facebook en échange d'un service qui coûte à créer et à faire tourner 5 euros par an. Donc moi, pour ce prix-là, je suis prêt à mettre un peu plus pour avoir un service qui est respectueux de ma vie privée. Parce que je ne veux pas dire des gros mots comme ça dans le podcast, mais toutes mes données personnelles pour un service qui vaut 5 euros, je me fais enfler quand même. Et puis vous tous hein, qui avez des comptes Facebook, c'est pareil. C'est le même tarif pour tout le monde. Hein. Donc, il faut quitter la publicité ciblée. C'est le principe numéro un. Et puis après, il y a un certain nombre d'autres principes. Je pense en particulier, il faut avoir un matériel qui est géré par quelqu'un en qui on a confiance, donc qu'on contrôle ou qui est contrôlé par quelqu'un sur lequel on a un contrôle. L'utilisation de logiciels libres, pour moi c'est une évidence, mais bon, j'ai un lourd passé sur le sujet. Et puis d'autres choses, l'utiliser du chiffrement pour communiquer entre mes différents appareils, entre mon PC et mon cloud et mon smartphone, il faut qu'il y ait du chiffrement, ça va sans dire.
Une chose importante sur le chiffrement, excuse-moi de te couper, c'est aussi dire qu'il faut maîtriser les clés. Parce que souvent, on oublie ça. Alors, un, maîtriser les clés. Deux, quand c'est possible, maîtriser le protocole. Parce que si tu ne maîtrises pas les clés, qu'elles ont été éditées par quelqu'un d'autre, et deux, que le protocole a lui-même été édicté par quelqu'un d'autre, et là peut-être Christophe pourra intervenir, il y a quand même de grandes chances que cette tierce partie ait accès soit à tes clés, soit au protocole, et donc le chiffrement ne sert à rien.
Alors on peut en discuter en fait. T'as complètement raison, dans l'absolu. Néanmoins, il faut voir que si tu veux pouvoir faire des traitements dans ton cloud, tu peux pas avoir du chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire que tu peux pas être en zero knowledge avec du chiffrement sur ton PC, du chiffrement sur ton smartphone, et puis avec quelque chose avec un blob binaire qui est stocké sur ton serveur. Enfin, ça c'est possible si tu fais de la synchro de fichiers. Mais dès lors que tu veux commencer à travailler des données qui sont à l'intérieur des fichiers, là tu peux pas te permettre que ton serveur n'ait pas connaissance de la structure de ton fichier, enfin si du moins jusqu'à ce que le chiffrement homomorphique soit voilà. Opérationnel.
T'as les solutions de chiffrement homomorphique qui permettent de travailler les données alors qu'elles sont chiffrées, et aujourd'hui on arrive même à faire tourner l'homomorphisme sur des cartes graphiques pour accélérer le chiffrement, les traitements.
Les performances sont pas acceptables.
C'est pas au point ça.
Non, mais peut-être
le chiffrement homomorphique, c'est de l'avenir, et puis ça demande un CPU absolument monstrueux.
C'est pour ça que ça tourne aujourd'hui sur des cartes graphiques. Mais bon, c'était une petite aparté.
Non, mais j'attends avec une grande impatience le chiffrement homomorphique. Bon, aujourd'hui, en production, non. C'est encore de la science-fiction, ce qui est regrettable. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'on fait chez Cozy Cloud, c'est une de ces solutions de cloud personnel. Ben, on utilise du chiffrement, mais le chiffrement qu'on utilise, c'est simplement du HTTPS entre les différents devices, et puis localement un chiffrement du disque dur. Mais ça nous permet de retravailler les données localement. Donc effectivement, ça implique d'avoir confiance dans l'hébergeur à qui on confie ces données. Quoi.
Il n'y a pas une solution qui permet de faire tourner ça chez soi? Parce que moi, j'avais regardé OnCloud à un moment. Bon, maintenant, je crois que c'est plus trop actif. Il y a eu un fork NextCloud et ils ne corrigent plus les failles, etc. Mais qu'est-ce que tu penses de l'auto-hébergement chacun chez soi avec son Raspberry?
C'est une possibilité et c'est quelque chose qu'on fait chez Cozy, mais maintenant il faut être lucide. Hein. L'auto-hébergement, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir envie de scoltiner des configurations réseau, de la maintenance du système de sa machine sous Linux, appliquer les patchs, etc. Enfin, c'est pas trivial, quoi. C'est très bien si ça intéresse des fondus de l'admin 6. C'est du logiciel libre, ils peuvent le télécharger gratuitement et l'installer sur leur machine. C'est génial, on en a plein dans notre communauté et je les adore. Mais ce n'est pas monsieur et madame Michu. Monsieur et madame Michu, si on veut que eux aussi ils aient le droit à la vie privée, et pour moi c'est quand même très important, pour moi c'est pas juste un problème d'informaticien, il faut que on leur offre un système qui est carrément plus simple à utiliser et qui ne ne les force pas à se dire bon alors mes clés de chiffrement je les stocke où et puis et tout ça quoi. Est-ce que mon algo de chiffrement il est assez solide en 2017 parce que enfin voilà enfin vous connaissez le boulot mieux que moi. Il y a vachement de veille à faire pour avoir un système sécurisé. Donc on ne peut pas mettre ça sur les épaules de tout le monde. Mais que des fondus de l'auto-hébergement le fassent, je trouve ça vraiment très très bien.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'écosystème aussi? Parce que je vois tous les problèmes qu'OVH avait eu à faire certifier son appli Hubic par Apple. Enfin, tu vois, finalement, aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui va lancer un produit comme celui qu'on utilise pour enregistrer ce podcast, par exemple... Il propose que le stockage en Dropbox, parce que c'est le plus connu, il ne va pas supporter, Baidu Pan, par exemple, qui est un service de stockage qui donne 2 Tera gratuits en Chine. Mais bon, il ne le connaît pas, il n'a pas envie de faire affaire avec lui. Quoi.
Oui, mais je n'ai pas compris la question.
Ce que je veux dire, c'est que est-ce que mécaniquement, pour exister, tu n'es pas obligé d'être gros? Est-ce qu'il y a de la place pour les petits acteurs, parce qu'ils vont devoir aller chercher des partenariats au couteau, tu vois?
Oui, ça fait partie en fait des principes que j'explique à propos de Circus. Un des 7 principes, c'est la standardisation des API pour que les choses soient interopérables. Et ça, on a vraiment intérêt à le faire. C'est-à-dire que Cozy, faut que Cozy le fasse et travaille avec Nextcloud pour que ça soit de même et ainsi de suite. Enfin, que les gens puissent changer de cloud personnel et standardiser les API. Ça me paraît très important, effectivement.
Ce qui est prévu avec la portabilité des données en 2018 en Europe.
Oui, avec la GDPR et le règlement européen sur la protection des données, effectivement, il y a une problématique de protection, de portabilité des données, donc qui va forcer, en gros, tous les acteurs à remettre à l'individu des données qui sont lisibles par une machine et sans friction. Donc, en gros, avec une API, quoi. Ouais, c'est génial.
On attend encore quelques éclaircissements ou éclairages des juristes sur ce point très précis, parce que c'est encore un petit peu flou dans la loi.
Ben oui, parce que c'est écrit avec un langage juridique, et effectivement, on n'a pas réussi à leur faire écrire dans la loi le mot API. J'assure qu'on aurait adoré, quoi. C'est pour ça que j'ai bien dit sans friction, parce que je cite le texte, hein, quand c'est écrit sans friction dans le texte, parce que on n'a pas réussi à leur faire écrire API.
Tu disais tout à l'heure, évidemment, on parle de surveillance, mais tu parlais de perte de contrôle. Toi qui es un vieux de la vieille, si tu me permets, au niveau informatique, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on revient un peu 30 ans en arrière avec nos mainframes, etc., et le tout où l'utilisateur n'a aucun droit et ne peut pas toucher à son système, le protéger, faire quoi que ce soit? Est-ce que finalement nos téléphones portables, c'est pas aussi bloqué que ce qu'on avait au début des années 80?
Oui, c'est clair. Hein. Quand j'ai eu mon premier Apple II, que je m'en mords les doigts de l'avoir vendu, c'est l'Apple II, c'était une machine vraiment formidable. Elle était, on pouvait ouvrir le capot. Sans outils, parce que ça fermait avec un genre de velcro. Et dedans, on pouvait enficher des cartes électroniques. La machine était livrée avec un schéma électronique pour pouvoir créer ces cartes électroniques qu'on enfichait dans ces slots. Dans la ROM de la machine, il y avait un désassembleur pour qu'on comprenne comment était écrite la ROM. C'est vraiment plus ouvert, c'était juste pas possible, quoi. Et maintenant, on a des iPhones avec des vis dites pentalobes.
Et ça a permis l'Apple Tel, hein, et l'Apple Tel, ça a beaucoup joué de rôle pour le développement des BBS dans les années 80.
Ouais, oui, parce que on pouvait mettre plusieurs modems dans une seule machine, c'était juste énorme. Donc on pouvait communiquer.
Parce que la première innovation de Roland Moreno, c'était l'Apple Tel, hein, c'était pas la carte à puce.
Oui, tout à fait.
C'était tout la fait. Minute du dinosaure.
Tiens, on est deux, hein.
Ouais, je suis le doyen.
Donc oui, donc c'était formidable, mais c'était vraiment une autre époque. Ce qui est intéressant, c'est que au moment même où Steve Jobs et Steve Wozniak sortaient l'Apple II, à peu près la même année, en 76 ou 77, il y avait Ken Olsen, le fondateur de Digital Equipment Corporation, DEC, qui était un des grands constructeurs américains de mini-systèmes. Et Ken Olsen, qui était pourtant un visionnaire de l'informatique, disait « personne n'aura jamais besoin d'avoir un ordinateur à la maison ». Et Dieu sait si c'est fourré le doigt dans l'œil, Ken Olsen, puisque maintenant on a des ordinateurs dans chaque poche. Vous voyez, donc c'est bien, c'est-à-dire que la centralisation des mainframes des années 70 jusque dans les années 80 en fait a donné lieu à la démocratisation avec un balancier qui s'est déplacé, démocratisation vers le PC, et puis après un retour vers le cloud qui est donc Amazon, les GAFA quoi. Et je pense justement que avec les circus, avec Cozy Cloud et avec, on est dans une approche de décentralisation d'Internet. On veut en fait rouvrir le cloud, le remettre comme il doit être. Internet, c'est fait pour être décentralisé. La neutralité du net, c'est pas fait pour des chiens. Les adresses IP tout égales entre elles, c'est pas fait pour des chiens non plus. C'est ça. Je pense, ou du moins j'espère, que on est dans le sens de l'histoire à vouloir faire un Internet décentralisé avec la possibilité d'avoir chacun son cloud personnel. Et si on n'est pas content d'un fournisseur, eh bien je vais m'auto-héberger ou je vais me mettre chez un autre fournisseur et je déplace mes données.
Est-ce que ça ne va pas dans le sens opposé au développement des clients qui tendent soit avec Windows 10 soit avec des Chromebooks à être finalement tout centralisé?
Ah ben, c'est sûr que moi je vais dans le sens de la liberté de l'utilisateur et je ne vais pas dans le sens de l'enfermement de cet utilisateur. Chromebook, enfin je veux dire, c'est quand même un truc de dingue, quoi. C'est vouloir mettre toutes ces données dans les mains d'un seul mec dont le métier, l'ADN, c'est tout savoir sur vous pour pouvoir vendre, monétiser vos données personnelles auprès de publicitaires. C'est juste dingue, hein. Moi, quand je fais souvent dans mes présentations, je raconte l'histoire des deux cochons qui sont dans une porcherie et il y a le premier qui dit à l'autre: oh, j'adore cet endroit, c'est formidable, tu as vu, nous sommes logés gratuitement. Et l'autre dit: oui, moi aussi j'adore beaucoup cet endroit parce que tu vois, en plus on est nourri gratuitement. Bon, et la photo d'après sur mes diapos, eh ben c'est une photo de saucisson coupé en tranches fines, quoi. C'est, effectivement, dans le monde réel, on sait bien que le cochon n'est pas le client du fermier. Et pourtant, on est tous persuadés d'être le client de Google et de Facebook. Il faut arrêter.
Oui,
quoi.
Mais aujourd'hui, la majorité des gens regardent la télévision gratuite, donc financée par la publicité, et pas la télévision payante.
Ah, tu payes pas ta redevance, toi?
Oui, c'est payant la télévision.
Alors, je suis désolé.
Ça y est, Hervé Schoer vient de déclarer subitement, française. Il sort du bois, il n'a jamais payé sa redevance.
Je
te taquine, Hervé.
Je paye, bien entendu, absolument tous mes impôts.
Bravo, c'est beau, France est fière de toi.
D'ailleurs, et je paye la redevance alors que je n'utilise pas la télévision.
Moi non plus.
Mais bon, je veux dire par là que la redevance paye la télévision publique. Hein, donc c'est juste un impôt déguisé, on aurait pu mélanger tout ça dans les impôts. Les chaînes privées auxquelles sont habitués le grand public sont financées par la publicité. C'est le temps de cerveau disponible. La majorité des gens regardent ça. La minorité achète et c'est pas pour autant d'ailleurs qu'il n'y a pas de pub. Bon, donc c'est juste pour dire que c'est le modèle auquel la population est habituée. Elle est habituée au modèle publicitaire.
Qu'est-ce que c'est le risque pour mes données personnelles si le monde commercial connaît tout de moi? Qu'est-ce que je risque?
Pas grand-chose à part une certaine dépendance. Hein. Là, c'est assez intéressant ce qui est en train de se mettre en place avec c'est Amazon Echo et les concurrents. Enfin non, c'est Google qui fait Echo, je sais plus. Et Alexa. Enfin bon, bref, ils ont leurs enceintes connectées avec l'intelligence artificielle branchée dessus. là encore, déjà, c'est quand même très étrange que les gens achètent du matériel avec des micros branchés en permanence qu'ils vont mettre dans leur salon.
Ça... Alors, je précise qu'il y a un bouton mute sur le device quand même. Il y a une tendance au chatbot aujourd'hui.
Oui, et c'est une raison pour acheter un truc avec un micro allumé en permanence, sauf quand je décide manuellement de l'arrêter. C'est pas forcément.
Apparemment, les gens qui l'ont aux USA sont assez fans de leur Amazon Alexa. J'ai connu des gens qui sont allés à Airbnb à San Francisco et qui ont eu le droit à la démo. Et le gars qui leur présentait ça était absolument fan. Après, c'est juste une question de point de vue. Non, quoi.
Bien sûr. Et de la même façon qu'on a vu l'avènement des smartphones et que j'appelle donc des mouchards de poche, on les paye très cher et on en change tous les deux ans. Quoi. Donc, il y a quand même un paradoxe, mais on ne peut pas nier l'engouement de la chose. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a Alexa et compagnie et ses concurrents, qu'on va tout confier à une certaine boîte en termes d'intelligence artificielle, le jour où on va vouloir quitter cette boîte, ça va être très compliqué. Quoi. Ça va être très, très compliqué.
Bah, c'est justement le sens de la loi sur la portabilité.
J'espère que ça va marcher. Hein.
Ok, alors vous en pensez que seul le législateur peut nous sauver ? À son profit ?
Mais est-ce que le législateur de demain, c'est pas les développeurs, justement ?
Oh, stop la blockchain !
Non, c'est dans le livre, il y a un chapitre Code is Law.
Effectivement, je pense que le développeur, ou plutôt le chef du développeur, celui qui lui dit tu vas autoriser ça dans le logiciel et tu vas interdire ça dans le logiciel, c'est lui qui fait la loi. En tout cas, c'est la théorie de Lawrence Lessig, ce juriste américain. Qui explique bien que au 19 et au 20e siècle, c'était des juristes qui faisaient les lois, et maintenant c'est l'informaticien qui fait les lois. Quand Apple décide que on ne pourra pas installer de pornographie sur l'App Store, et donc on peut pas avoir de pornographie dans une application de son iPhone, de son iPad, ils ont leurs règles morales qui suivent. Enfin, c'est surtout du marketing parce qu'ils veulent pas avoir la pomme associée à de la pornographie. Pourquoi pas. Néanmoins, c'est eux qui décident. Et c'est très difficile de faire autrement. C'est-à-dire qu'on peut toujours s'obstiner à en chercher. Il y en aura pas ou très brièvement avant que ça soit supprimé dans l'App Store. Donc, c'est de fait, c'est celui qui a écrit le code ou c'est celui qui a donné les ordres à celui qui écrivait le code qui a décidé de ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire avec son smartphone avec une pomme dessus.
C'est une manière de cloisonner. L'iPad, c'est pour les enfants. Pour les adultes, il y a autre chose.
Ouais, ça fait cher le jouet quand même, Hervé. Et alors, est-ce que aujourd'hui on a des moyens de s'en sortir ? Est-ce que il y a des choses simples ? Est-ce que si on prend là, tu as cité trois produits tout à l'heure. Tu as cité le smartphone, ordiphone en français. Tu as cité l'ordinateur personnel et tu as cité le cloud. Donc tu es aussi revenu en disant le cloud chez Cozy par exemple, on propose un service. Tu vas peut-être pouvoir nous en dire un peu plus. Sur l'ordinateur, tu as cité les distributions GNU Linux. Et le smartphone, on fait quoi ?
C'est l'horreur. C'est l'horreur parce que aujourd'hui, de fait, quand on va dans une boutique acheter un smartphone, on a le choix entre un iPhone hors de prix. Qui fait de la censure sur l'App Store. Certaines applications tout à fait légitimes ne peuvent pas être présentes. Il y a régulièrement des applications qui sont supprimées pour des raisons morales qui sont tout à fait discutables. Et sinon, l'alternative c'est Android. Donc il y a un écosystème qui est entièrement basé sur le profilage de l'utilisateur. Donc, c'est peste ou choléra, quoi.
Est-ce à dire que Apple ne fait pas de profilage utilisateur ?
Apple le fait très très peu. et le fait d'une façon très prudente. Alors, ils font des bévues. Hein, récemment, il y a eu un scandale parce que ils envoient dans le cloud la liste des derniers correspondants des appels téléphoniques, de façon à ce qu'il y ait un suivi entre les différents appareils de l'historique d'appels. Donc, je passe un coup de fil avec un iPhone, je peux continuer à faire un FaceTime avec mon Mac si je veux. Ça, bon, ils font des erreurs, mais ils font très peu de big data et c'est pas pour profiler les utilisateurs. Ils veulent profiler des usages pour s'assurer que les fonctionnalités sont utilisées, etc. Mais ils sont beaucoup, beaucoup plus avancés dans le respect de la vie privée. Ça en est même devenu un différenciateur parce que ils savent bien que sur ce terrain-là, Google est absolument incapable de les suivre. Hein. Pourquoi est-ce que Google va offrir à Samsung un système Android qui a probablement coûté des milliards, littéralement des milliards de développement logiciel? Il le donne à Samsung, à HTC, etc., et à Sony, qui ont pourtant qui sont des sociétés bien grassouillettes avec les poches garnies de lingots, ils pourraient payer, mais la condition sine qua non, c'est si vous prenez le système avec, vous êtes obligé de prendre Google Maps, suivi de l'utilisateur, Gmail, lecture de la correspondance et carnet d'adresse, Google Calendar, pour savoir qui fait quoi, etc., etc., Google Search, pour savoir à quoi les gens s'intéressent, et tout. Les constructeurs de téléphones sont obligés de prendre ça s'ils prennent Android. Donc tout est fait pour que Android soit un cheval de Troie chez les constructeurs de téléphones et puis ensuite transmis chez les utilisateurs. Donc Apple est pas du tout dans cette même approche. Apple est dans une approche à dire, moi je vous vends des gadgets odieusement chers. Ils font quand même 91% du profit du marché du mobile quand même hein, chez Apple. Hein. C'est-à-dire que les autres, ils ont juste des miettes à se partager. Donc Apple fait un profit indécent en vendant ces gadgets très très chers et du coup, ils n'ont pas besoin de monétiser la data qu'ils vont prendre dans les poches des utilisateurs. J'ai eu, à l'époque où j'étais au Conseil national du numérique, l'occasion de passer à l'interrogatoire la directrice mondiale d'Apple sur la vie privée. J'étais venu avec ma batterie de questions, j'avais préparé le truc, et j'ai pas trouvé, peut-être que je me suis fait baratiner, c'est pas totalement exclu, mais je n'ai pas trouvé de faille dans son approche. Leur truc tient la route, leur white paper tient la route, leur document d'architecture, ils tiennent la route aussi. Par exemple, quand on dit, ah, tu vas quand même pas donner ton empreinte digitale à Apple, mais on la donne pas à Apple en fait. L'empreinte digitale qui est scannée par l'appareil, elle est ensuite stockée dans un truc où ça peut pas sortir. Donc il y a des mécanismes qui ont été pensés chez Apple au point d'ailleurs que c'en est devenu un positionnement marketing fort. Hein. Quand ils ont pu tatouer FBI à San Bernardino, c'était pas rien.
Oui,
hein.
Mais justement, ça c'est la façade. Le positionnement marketing reste ambigu puisque il y a de toutes les manières des développements pour être capable de cloisonner et de prouver aux autorités. Type G29, donc les autorités des comme les CNIL, que les données sont correctement cloisonnées et qu'il n'y a pas d'échange entre applications qui n'étaient pas explicitement justifiées dès la conception. Et ça, c'est des choses que il y a pas toujours de manière très claire chez Apple et que d'autres essayent de développer. Moi, je pense que les acteurs qui sont clairement en retard de ce point de vue-là sont ceux dont on a moins parlé, comme Microsoft, qui lui a vraiment, une capacité, aucune capacité à démontrer le cloisonnement des données qu'il collecte. Je suis d'accord sur Facebook, on parle pas de LinkedIn et de toutes les applications sous-jacentes. T'as cité Criteo pour la France, dont les utilisateurs ne voient pas la couleur. Et tous ces gens-là ont certainement pas l'avancée d'Apple, mais aussi de Google. Parce que dans ceux qui font attention à être capables de démontrer un jour qu'ils respectent les législations nationales, je pense pas que Google soit dans les derniers.
Non, il y a une très bonne présentation à la JSC de Lausire à ce sujet d'ailleurs.
Voilà, il y a eu une présentation à la JSC de Lausire. Bon, après, c'était juste pour montrer que les personnes à privilège n'ont pas accès aux données qu'elles. Mais ça reste un point particulier. Mais ça montre un engagement et une forme de transparence que d'autres ne sont pas capables d'avoir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les outils techniques derrière, ils n'ont pas encore fait cet effort d'être capables eux-mêmes de contrôler ce que leurs développeurs font avec les données des utilisateurs.
Oui, ça je suis d'accord que Google est plus en avance, très probablement, parce qu'ils sont très secrets, donc c'est difficile de dire, mais je pense que Google est plus en avance que la plupart des autres sur ces sujets-là. Je pense que tout de même qu'ils filent un mauvais coton. Je me souviens, en 2009, ils ont acquis DoubleClick, donc régie publicitaire, et ils ont juré leur grand Dieu que jamais, au grand jamais, il y aurait de données nominatives liées aux données collectées par DoubleClick. Et là, 2016, 7 ans plus tard, ils viennent de changer d'avis et ils ont mis à jour leur privacy policy cet été, les données collectées par DoubleClick sont rapprochées des données nominatives de votre compte Google, etc. Donc, de toute façon, ils vont pas dans le bon sens. Je dis pas on peut disserter pourquoi ils vont dans ce sens-là, mais le fait est que Google va pas dans le bon sens et va dans une surveillance de plus en plus croissante, ce qui est très triste, et puis opposé en fait à la vision de départ de Google, qui était une société pour laquelle j'avais énormément de respect.
Mais pourquoi les alternatives mobiles, enfin, puisqu'on parlait du mobile, pourquoi les alternatives type Ubuntu ou Firefox sur mobile n'ont pas fonctionné? Finalement, c'est qu'il n'y a pas de demande des utilisateurs, non?
Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui l'utilisateur. On va prendre les choses autrement.
Il y a aussi un problème d'application.
Oui, il y a un problème d'écosystème.
Moi, j'ai vécu les Nokia N900, etc., jusqu'au bout. Après, j'ai voulu passer aux Finlandais là, qui ont repris la suite du N900. Et puis, voilà. Et on
t'as
arrive...
pas pu jouer à Pokémon Go. Et oui, voilà.
Non, mais moi, je ne joue pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive très vite à un appareil qui ne sert que à maîtriser ses applications et sa vie privée, et un appareil qui sert dans le cadre professionnel. Et donc, on a forcément un autre téléphone en plus.
Oui, c'est certain qu'il y a une problématique d'écosystème. C'est pas facile, une problématique de plateforme, quoi, qui est un grand classique dans les batailles de plateforme. C'est comment est-ce qu'on fait pour attirer des développeurs quand on n'a pas d'utilisateurs, et comment est-ce qu'on fait pour attirer des utilisateurs quand on n'a pas encore beaucoup de développeurs. C'est une des problématiques de GNU Linux aujourd'hui sur le desktop. Des gens qui vous disent ah oui, mais moi j'ai pas Photoshop, quoi. J'ai pas Word. Non, mais t'as LibreOffice. Ouais, mais moi c'est Word. Sans compter les applications métiers. Donc c'est tout.
Attends, SQL problème. Server est arrivé sur Linux. Attention.
Alléluia. Oui, bien. Mais enfin.
Sa propre émulation Windows détectée.
Et Bash sous Windows.
Ouais. Comme quoi.
Mais enfin, je veux pas insister, mais aujourd'hui Unix est arrivé sous Windows. Hein.
Il y a un point que tu as abordé en filigrane un peu tout au long. Tu nous as parlé de la publicité, des analytics, etc. Alors moi je fais une corrélation forte parce que je vois d'un côté des gens qui te proposent des produits d'analytics pour les visites de sites web, et puis de l'autre ils te proposent des publicités, comme ça t'es sûr d'être bien croisé sur toutes les données. Est-ce que tu peux nous donner un avis ou une vision, suite à tout ce travail que tu as fait sur ton bouquin, sur les adblocks et les choses du genre?
Alors ça, c'est une fichue question. Franchement, j'en sais rien. Je suis très très partagé sur les adblocks, de moins en moins, toutefois. C'est-à-dire que ma position évolue. Donc moi, je viens du monde des navigateurs, puisque j'ai travaillé au lancement de Firefox. Enfin, j'ai passé 17 ans chez Mozilla, donc bon, forcément, ça marque un homme. Et donc, attentif à la bonne santé du web. Et pour que le web marche bien, il faut qu'il y ait des amateurs, il faut qu'il y ait des professionnels, il faut que tout le monde puisse être entendu sur le web. Et les professionnels, ça veut dire qu'ils ont besoin de revenus. Et le business model de l'Internet pendant presque tout le temps, enfin, ou plutôt du web, pour être précis, ça a presque toujours été celui de la publicité. Et donc, bloquer les pubs, ça veut dire faire mourir à petit feu les professionnels du web, du contenu en particulier, et en premier lieu, le journalisme. Alors, il y a des professions dont on sait qu'ils sont... ils peuvent disparaître et c'est pas très grave quoi. Les fabricants de bougies, ils sont pas complètement morts, mais enfin c'est plus ce que c'était comme il y a 200 ans quoi. Mais le journalisme, c'est pas complètement neutre non plus, et je pense que un journalisme de qualité, une presse en bonne santé, c'est nécessaire pour que la démocratie fonctionne moins mal. Et aujourd'hui, bloquer les pubs, in fine, c'est enfoncer un peu plus une presse qui a vraiment pas besoin de ça. Donc a priori, plutôt contre les bloqueurs de pubs. Et puis en fait, après j'y ai goûté, puis c'est difficile de revenir en arrière, quoi. Et puis on est tellement surveillé par la multitude de systèmes, de régies, etc. C'est hallucinant, quoi. Il faut avoir vu l'add-on, l'extension de Firefox, dont le nom m'échappe, qui permet de visualiser les cookies déposés et le nombre de sites tiers prévenus quand je visite lemonde.fr ou lefigaro.fr.
C'est pas Ghostery ?
C'est terrifiant. Non, c'est pas Ghostery, c'est un truc graphique. Ça va me revenir, mais bon, c'est ça, à chaque fois que je me connecte, il y a une petite fenêtre qui apparaît et qui trace des liens. Et en fait, on voit quel site me surveille. Et donc, quand je vais d'abord sur Le Monde, ensuite sur Libération et ensuite sur Le Figaro, eh bien, en fait, il y a quelqu'un qui voit exactement quel article et quel trajet je fais sur le web. Et ça se compte par dizaines. Et c'est graphique. Et donc, on navigue 5 minutes le matin et 5 minutes après, on se rend compte qu'on a visité 6 sites et qu'il y a 130 mecs qui sont au courant de notre navigation. Ça pose un vrai problème, quoi. C'est-à-dire que le système de la publicité a finalement été totalement perverti. Donc, bloquer les pubs, oui, pourquoi pas, mais bloquer les trackers plus que bloquer les pubs, je pense que c'est quelque chose qui définit mieux mon approche sur ce sujet.
Mais, je ne sais pas si je peux poser la question, mais tu as quand même été au Conseil national du numérique pendant quelques années. Et c'est quoi un peu cet organisme ? À quoi il sert ? Quel est l'état d'esprit ? Par exemple, si on reposait la question sur les bloqueurs de pub, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc.
Voilà, ce sera intéressant parce que Jean-Baptiste Rudel, le CEO de Criteo, était avec moi au Conseil national numérique. Donc, je suis pas sûr qu'on réussisse à avoir un avis à l'unanimité sur cette question. C'est quelque chose qui est assez, enfin, c'est un organisme pour lequel j'ai vraiment beaucoup de respect. J'y ai fait des rencontres extraordinaires. C'est 30 membres bénévoles et plus quelques parlementaires qui viennent de temps en temps. Parmi ces membres bénévoles, c'est donc des gens de la société civile, quoi. C'est des entrepreneurs, des chercheurs, des professeurs. Il y a vraiment un peu toutes sortes de profils. C'est des gens du numérique, des professionnels du numérique, Et puis, ben, on réfléchit, on travaille, on se prononce sur un certain nombre de choses. Il y a 3 ans, 4 ans maintenant, quand j'y étais, c'était la neutralité du net qui a été le premier rapport qui a été remis. Évidemment en faveur de la neutralité du net. Ça a été ensuite la loi d'Axel Lemaire sur le numérique, qui a été faite de façon consultative. On pourra regretter qu'il n'y ait pas assez de choses qui soient passées de la consultation à la loi, mais on peut aussi se féliciter du fait que c'était la première fois qu'il y avait une loi qui était faite de façon consultative sur Internet, ce qui était, je pense, pas neutre. Donc il y a, c'était super intéressant, vraiment, avec des gens passionnants, avec qui j'étais pas toujours d'accord, hein, mais c'était au moins on apprenait à discuter, réfléchir ensemble et essayer de trouver des solutions communes qui soient bonnes pour le développement du numérique en France.
Et en ce qui concerne la sécurité, comment tu vois ça? C'est un frein, un passage obligé, ou bien c'est plus une opportunité?
Non, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Maintenant, je pense que c'est complètement fondamental. Si on veut que le numérique continue à avoir autant un rôle aussi positif dans la vie des gens, il faut que les gens aient confiance, quoi. Et pour ça, il faut qu'ils se sachent en sécurité. Puis de toute façon, le numérique, il est partout, et on peut pas se permettre que ça plante aujourd'hui. Il faut que ça marche. Donc la sécurité, c'est complètement essentiel. Complètement essentiel. Je suis fervent défenseur du chiffrement, exactement pour ces raisons.
Eh bien, ça me semble être une excellente conclusion. Tu voudrais ajouter quelque chose ?
Non, je vous remercie de votre invitation et j'espère que tout le monde aura passé un beau moment, même quand je m'énerve. Moi, je me suis pas vraiment énervé, mais quand je parle fort, on va dire.
Bon, en tout cas, on peut retrouver ton livre dans toutes les bonnes librairies. C'est aux éditions CEF, c'est ça ?
Oui, c'est ça, CEF édition, ou sur cefedition@surveillance, directement sur le site de l'éditeur.
Et il faut préciser que si tu achètes le livre, tu as l'e-pub sans DRM avec.
Moyennant supplément. C'est plus cher. Mais il est sans DRM. Mais on peut acheter l'e-pub tout court sans le livre papier.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.